Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon. En partenariat avec Quadral sur Radio Imo et Radio Territoria.
Salut les amis, merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, nous sommes le 27 septembre 2022, 82e congrès placé sous une certaine tension, on peut dire les choses comme ça, car l'habitat, le logement est un vrai sujet, c'est même le sujet qui va nous préoccuper jusqu'au 29. On est ici à Lyon, à Eurexpo. Il est temps de venir aussi sur le congrès si vous le souhaitez, mais si vous n'avez pas la possibilité de venir, vous suivez nos programmes sur Radio Imo et sur Radio Territoria, qui, je le rappelle, est la radio des élus. Des élus dont nous en recevrons tout au long de ces deux journées. On est très heureux de démarrer avec nos partenaires de Quadral, avec lesquels on a construit cette première table ronde sur les problématiques qui sont liées à l'accès au logement, à l'achat, à l'accession. On a réuni deux experts, en l'occurrence, pour en parler. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Cédric Laveau. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Cédric Laveau, vous êtes co-président de la Chambre FNAIM de Moselle et président du fichier AMEPI.
C'est bien ça.
Donc vous représentez finalement l'outil national qui partage l'ensemble des mandats d'exclusivité.
Oui, et la particularité, c'est que c'est un outil qui a été inventé par la profession et pour la profession.
Alors, je rappelle juste quelques chiffres. Hein. C'est un peu plus de 205 000 transactions sur le compteur cumulé. C'est pratiquement 4 000 adhérents. Bref, c'est un vrai moteur sur le marché. Donc, vous allez nous donner votre point de vue sur la première étape. On va en parler, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, sur les conjonctures marché. J'ai le plaisir d'accueillir également sur le plateau Jean-François Prévost. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Le président de Quadral, notre partenaire, merci d'être avec nous. Jean-François, je compte sur vous, puisqu'on va parler de vente HLM. Un vrai sujet, c'est même le sujet majeur qu'on va développer pendant ce congrès.
Et ben avec plaisir. Vente HLM, PSLA, BRS et...
Alors, voilà. Et on va même traduire pour nos amis qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est qu'un BRS, qu'est-ce que c'est qu'un PSLA et comment, parce que vous avez une particularité, et c'est important de le souligner, chez Quadral, c'est que vous considérez finalement les habitants, pas que comme des habitants, mais aussi comme des clients que vous accompagnez, avec lesquels vous les acheminez vers la propriété. Et c'est une chose formidable, parce que ça a plein d'effets, hein, l'accession sociale à la propriété. C'est un marqueur social d'élévation même par rapport à la condition des personnes, mais c'est aussi la garantie que les immeubles, quand ils sont mis en copropriété, eh ben, ils seront mieux entretenus, par exemple.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et simplement, il faut accompagner les personnes à passer d'un statut à un autre, parce qu'effectivement, c'est un moment important dans la vie. Ils ne l'ont jamais fait, donc on est là exactement pour ça.
Alors, c'est parti pour cette table ronde. On est ensemble pendant une petite trentaine de minutes. Bien sûr, vous récupérez le podcast, comme d'habitude, sur les plateformes qui vont bien. Première question, Cédric Laveau, la conjoncture. Si on regarde les infos, on va dire, bon, après, on a le choix entre le gaz et l'électricité. Entre du Valium pour se calmer. Enfin bref, on est dans un état quasiment de permacrise. Et pourtant, la conjoncture n'est pas si mauvaise que ça. L'année 2022 va voir quasiment frôler les mêmes résultats en volume de transactions que 2021. J'aimerais qu'on évoque les problématiques d'accès au crédit avec le taux d'usure, hein, qui fait beaucoup couler d'encre ces derniers temps. On en a beaucoup parlé. Hein, faut juste rappeler. Ce serait bien qu'on rappelle ce que c'est d'ailleurs que le taux d'usure. Hein. C'est un taux paramétrique qui est défini par la Banque de France au-dessous duquel on ne peut pas prêter. Et enfin, j'aimerais vous poser la dernière question, et je voudrais qu'on le développe. C'est, vous êtes un professionnel de l'immobilier, Cédric, est-ce que c'est toujours le moment d'acheter? Voilà, tout simplement. On va commencer, si vous voulez bien, par la conjoncture du marché. Cédric Laveau, commence par le marché aujourd'hui, en septembre 2022.
Alors le marché aujourd'hui, en septembre 2022, malgré, vous l'avez précisé, un climat un peu anxiogène, est plutôt positif dans le sens où il est porteur. Parce qu'un marché immobilier, c'est comme tout type de marché, c'est un marché binaire. Il répond à une règle très simple, et quand on a compris ça, on sait comment fonctionne l'immobilier. Il fonctionne sur la règle de l'offre et la demande. En matière d'immobilier, et on le voit avec la problématique de manque de construction de logements qui peut renouveler notre parc, on a une offre qui n'est pas à la hauteur de la demande et ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, quelles que soient les crises singulières que nous allons passer, le logement est une nécessité première pour tout un chacun. Il va falloir se loger et nous manquons de logements tant sur le parc locatif qu'à la vente. Donc de toute façon, le bien logement est un bien qui est rare et qu'il ne faut surtout pas qu'il devienne un bien de luxe. Le logement est un bien de première nécessité et il faut que les politiques du logement nous permettent de continuer à faire progresser l'offre pour que ce marché reste et demeure un marché de première nécessité.
Donc la conjoncture pour 2022, on va dire que vu les volumes de vente, ça va ?
Ça va.
C'est la projection dans le futur. Est-ce que vous pourriez nous dire, Cédric Labeau, parce qu'on le voit bien, hein, je vous donne juste un chiffre, hein, 45% en moyenne des dossiers. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur le même chiffre, mais c'est une moyenne, 45% de dossiers refusés par les banques à cause du taux d'usure, en sachant que, et ça c'est très récent, que depuis quelques mois, les banques intègrent le coût de l'énergie dans les ratios d'endettement des Français. Cédric Labeau, vous avez rappelé tout à l'heure que la transaction immobilière se portait plutôt bien et que le marché est un marché finalement de besoins primaires, hein, de besoins de première nécessité. Oui. On n'est pas toujours obligé d'acheter, on peut louer.
On peut louer et si vous manquez de logement, quel que soit votre choix d'être locataire ou propriétaire, s'il manque de logement et d'offres de logement sur le territoire, ça va toucher et impacter toute la population, quel que soit le choix de louer ou d'acheter. Et vous l'avez très justement expliqué dans votre démonstration. Vous m'orientez tout de suite sur le taux d'usure qui démontre bien qu'on est sur un problème de capacité de pouvoir acheter plutôt que de volonté.
Alors pourquoi le taux d'usure, c'est un taux au-dessus duquel, en soi, on ne peut pas emprunter, on est d'accord. C'est illégal, hein, c'est le taux d'usure, il est fixé par la Banque de France. Et alors il y a plusieurs catégories, hein, le taux d'usure. Il y a le taux d'usure pour les crédits conso, par exemple. Il y a aussi pour les crédits immobiliers. C'est revu tous les 3 mois. Est-ce que vous faites partie des professionnels qui disent que ça serait bien qu'on le revoie, non pas tous les 3 mois, mais par exemple tous les 15 jours, par rapport à l'évolution des taux ?
Alors, le taux, si je peux me permettre, le taux d'usure, déjà, au départ, c'est un taux qui a été créé pour protéger le consommateur et on a tendance à l'oublier.
Ce qui est une bonne chose, en soi.
Ce qui est une bonne chose. Et il ne faut pas... on verra, je ne sais pas tout à l'heure, peut-être qu'on exprimera à qui ce taux d'usure porte-t-il préjudice. Et c'est quand même intéressant de se poser la question.
À qui il porte préjudice, justement ?
Bah, le taux d'usure, il porte préjudice à 2 catégories de personnes. Aux plus de 50 ans et aux courtiers. Mais ce qui n'empêche pas, même si c'est plus compliqué pour les plus de 50 ans, de pouvoir malgré tout trouver quelques solutions d'achat. Le taux d'usure à ce point positif de quand même permettre un embrasement des taux bancaires. S'il n'y avait pas ce fameux taux d'usure et que les banques suivaient le cours de l'argent, nous emprunterions déjà à 4,5%. Et de toute façon, les clients ne pourraient pas acheter parce que le temps que le marché se réajuste, il y aurait un appel d'air de toute façon. Ce qui, moi, m'interpelle dans le taux d'usure, c'est la manière dont nous avons, nous, professionnels de l'immobilier, à pouvoir l'expliquer à nos clients. Et la grosse difficulté, c'est que personne n'y comprend rien.
C'est pas simple. C'est pas simple. Je suis d'accord avec vous. La question du taux d'usure est en train peut-être de se régler, parce que vous savez qu'au 1er octobre, ça va être réévalué. On a un chiffre, je ne sais pas si vous confirmez, il sera à 3.
Hein, on a entendu ça, mais
voilà. Il y a une annonce, hein, qui a été faite, mais que vous êtes comme Saint Thomas, on va attendre que ce soit écrit dans le marbre. Cédric Labeau, avant de céder la parole à Jean-François Prévost, très concrètement, franchement, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes un homme politique dans le métier. Vous dirigez le plus gros, on appelle ça un MLS. Hein. MLS, c'est M, c'est.
Allez-y, je vous laisse l'honneur, Sylvain. Vous êtes très très cultivé en la matière. Alors, avec une culture anglo-saxonne, machine qui n'est plus à démontrer,
non ? C'est ça ? Ou multi-level. Comment on appelle ça déjà ? C'est multi-level ?
Alors nous, on appelle tout simplement ça un fichier de partage de mandat exclusif en France, parce que c'est une particularité bien propre à notre territoire. C'est une culture qu'on doit inculquer aux agents immobiliers et aux professionnels de notre territoire. Et il n'est en aucun cas à copier-coller au MLS outre-Atlantique. Alors, c'est vrai, fonctionne de manière différente.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'avantage, c'est quand même vous renforcez l'offre dans les agences immobilières, pour quand même le dire, par le biais des exclusivités. Est-ce que c'est toujours le moment d'acheter quand même, Cédric Labeau, aujourd'hui, avec une inflation qui est quand même galopante, quand même des taux d'intérêt, il faut le rappeler, qui sont inférieurs au taux de l'inflation. Donc, est-ce que vous conseillez aux gens qui nous écoutent d'acheter aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours le moment ?
Alors, en une phrase, très simple. En immobilier, il y a 2 moments fondamentaux. Un moment pour acheter et un moment pour vendre. Alors, je vous l'accorde, Sylvain, il faut bien réfléchir à quel moment on va devoir vendre son bien.
Stop. Tu as repéré le marqueur, là, sur le timer ? 2 moments fondamentaux. Tu coupes, tu fais à couper au montage. OK ? Voilà. deux moments fondamentaux, c'est à couper au montage par remplacer deux moments fondamentaux. Tu fais la coupe, ok, ou tu supprimes la phrase. Parce que j'aurais pas le temps de le faire tout à l'heure, c'est pour ça. Je préfère couper. C'est bon ? Ok. Ok. Je dis top et je repars, d'accord ?
Top. Il y a deux moments fondamentaux dans le temps de vie de l'achat et de la vente d'un bien immobilier. C'est l'achat dans un premier temps et la vente dans un second. Je vous l'accorde, Sylvain, il y a un temps pour vendre. Il faut stratégiquement savoir quand est-ce que l'on peut vendre son bien. Et dans le meilleur des cas, il faut être maître de ce moment où l'on vend son bien. Par contre, pour acheter, c'est toujours le moment d'acheter. Je vais vous raconter une petite histoire très simple. Nous sommes en 1976, en pleine période d'inflation, juste avant le choc pétrolier. Et puis, à ce moment-là, on déconseillait clairement à tout le monde d'acheter des biens immobiliers. Mes parents, à ce moment-là, ont acheté leur maison, ont fait construire leur maison pour la somme de 140 000 francs sur un terrain de 7 arts.
Wow.
Pour une maison qui aujourd'hui est estimée à 280 000 euros. C'est une maison qu'ils occupent toujours. Vous imaginez bien que c'est l'inflation qui a payé.
140 000 francs. C'est 12 000 euros.
Mais c'est la magie de l'inflation pour les biens immobiliers. Vous empruntez à taux fixe, donc vous bloquez une échéance à taux fixe. Mais oui. Et plus l'inflation galope, plus votre bien prend virtuellement de la valeur avec la même mensualité. Donc pour l'investisseur immobilier, l'inflation, c'est quelque chose qui vous paye votre bien et qu'il le dilue avec le temps.
C'est intéressant parce que ça doit intéresser un maximum de monde. Vous avez une particularité, Jean-François Prévost, c'est d'être en France le spécialiste de l'accession sociale à la propriété. Est-ce qu'on peut déjà définir ce qu'est l'accession sociale à la propriété et comment aujourd'hui la vente HLM tend aujourd'hui à se généraliser et quels sont les réflexes à adopter pour pouvoir le faire ?
Alors effectivement, je confirme qu'on a beaucoup de plaisir à être l'acteur de référence de l'accession à la propriété. Alors l'accession sociale à la propriété.
Oui, on dit toujours accession
sociale. En réalité, parce que, et dedans j'englobe un peu tout, c'est-à-dire à la fois il y a la vente HLM, donc la vente de logements anciens prioritairement à leurs occupants ou sinon aux occupants du parc social, la vente en location-accession, donc PSLA, ou la vente en BRS, là c'est plus récent. Alors, toutes les questions, toutes les problématiques ont été abordées par Cédric Laveau, on les retrouve évidemment avec une difficulté un petit peu accrue du point de vue des ressources financières puisque les locataires du parc social rentrent dans le parc social parce que leurs revenus sont plafonnés et donc naturellement quand il va s'agir d'acheter, peut-être leurs revenus ont-ils augmenté, mais enfin généralement on reste quand même sur des revenus qui sont peut-être pas complètement réduits mais en tout cas qui sont relativement maîtrisés, qui sont en moyenne moins élevé que sur le parc privé. Et donc ça apporte une première attention, c'est l'attention au niveau de prix qu'on pratique. Vendre à un locataire HLM au prix du marché, c'est compliqué, c'est très compliqué. La base de la réglementation, finalement, du code de la construction de l'habitation en matière de vente HLM, c'est la pratique d'une décote de marché. Alors les règles, elles ont un peu changé depuis quelques années, mais il y a toujours cette idée de décote, c'est-à-dire que le locataire, il est rentré dans ce logement parce qu'il gagnait un peu moins que tant, eh bien, il doit pouvoir devenir propriétaire pour suivre son parcours résidentiel avec des conditions de prix qui soient favorables.
De locataire, il devient propriétaire, on est d'accord ?
Exactement.
Donc il y a une démarche finalement qui est assez aussi symbolique quelque part, dans le cadre social de la démarche. Celui qui était locataire se met à apprécier le lieu dans lequel il vit, dans lequel il se dit « c'est à moi ».
Ben oui, complètement.
C'est transmissible. Est-ce qu'il doit y avoir un effet particulier, humainement, je veux dire, parlant, dans l'accompagnement de ces populations vers finalement une idée de la propriété dont ils n'auraient pas forcément pensé au départ ?
Exactement. Alors en fait, vous avez tout à fait raison. On a commencé l'activité de Quadral Transaction à l'époque, en 1982, dans les bassins sidérurgiques lorrains, là où les personnes étaient en train de perdre leur job.
Wow.
Et à qui on disait, mais plutôt que d'avoir de l'argent et de payer un loyer, on va vous vendre le logement à un prix réduit et donc vous serez chez vous avec vos primes de départ, parce qu'on était vraiment sur une mutation industrielle avec vos primes de départ. Profitez-en, devenez propriétaire. Ils ne l'ont pas regretté. Aujourd'hui, on les voit revendre en deuxième, en troisième, en quatrième main, parce que ça date maintenant. Je rappelle que les Français déménagent en moyenne tous les 7 ans, 7-8 ans.
Oui, oui.
Donc ça a déjà changé plusieurs fois de main. tous ceux qui ont vendu, ils ont fait une plus-value. Ça leur a permis de racheter quelque chose d'autre, de plus grand après, de plus adapté à leur module familial, etc. L'autre point d'attention, parce que vous parlez d'accompagnement, c'est évidemment, et c'est en écho avec ce que disait Cédric Laveau, c'est l'accompagnement financier. Laisser aujourd'hui des primo-accédants qui ne sont jamais allés voir leur banque, donc par définition, pour un crédit immobilier, les laisser y aller, la fleur au fusil, pour éventuellement prendre un refus de prêt, c'est prendre le risque. Nous, sur notre métier, qui est un métier de long cours,
de les braquer.
Dans 6 mois, dans 1 an, ils sont encore braqués. C'est-à-dire que s'ils ont un refus de prêt, ça peut arriver. Aujourd'hui, ça peut arriver, ça arrive malheureusement un certain nombre de fois. Mais les taux restent effectivement, à mon sens, relativement maîtrisés. Les conditions d'accès au crédit se sont durcies, mais le crédit lui-même se fait dans de bonnes conditions. Et effectivement, en plus, avec l'inflation, on a vraiment tout intérêt à aller vers cette démarche-là. En revanche, si la personne prend plutôt un refus, 2 refus, 3 refus, et qu'on ne l'a pas préparé à l'idée qu'elle allait peut-être se prendre des refus, et que c'était des raisons techniques qui faisaient ça, que ce n'est pas une remise en cause de la qualité du dossier, que ce n'est pas une remise en cause humaine de la personne qui est en face de nous. Alors nous, on a une équipe de commerciaux qui ne sont pas des gens commissionnés, qui passent le temps nécessaire chez leurs clients. Ils passent tout le temps nécessaire, certains passent beaucoup de temps, et c'est très bien. Parce que le but,
cet accompagnement, il tient aussi de l'accompagnement humain, de confiance, de la relation de confiance. Ça doit être essentiel, ça.
Oui, on a toujours beaucoup travaillé sur le financement. On travaille aussi beaucoup sur l'explication de la copro. Vous allez être dans une copropriété, vous aurez le pouvoir de voter ou pas des travaux, de changer de syndic ou de le maintenir, etc. Tout ça, on l'explique. Ça prend beaucoup de temps.
Ils le comprennent.
Ils le comprennent très bien. Ils le comprennent très bien. Et puis, on a évolué depuis tant de temps que ça. Ça fait 40 ans. Depuis tant de temps, on a un certain nombre de supports, on a un certain nombre de méthodes pour que ce qu'on dit soit bien compris et qu'on ne mette pas des primo-accédants dans une difficulté future liée au fait qu'ils seraient allés, là encore, la fleur au fusil, vers une acquisition en se disant « c'est bien d'être propriétaire ». Oui, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix.
Vous voulez ajouter ?
Oui, je suis complètement en phase. Mais il faut savoir l'expliquer à nos clients. Et ça, si on a un message aussi adressé à nos équipes, c'est de leur dire « si vous rentrez dans des termes techniques avec nos clients pour leur expliquer ce qu'est le taux d'usure, effectivement, les clients vont croire que le fait de ne pas avoir l'autorisation d'un financement est lié à la qualité de leur dossier. Alors, pas du tout. Une technique très simple pour expliquer le taux d'usure aux clients. Comparez ça à un marché qu'ils côtoient tous les jours. Expliquez-leur que, imaginez que votre boulanger ait un coût de production de sa baguette et que sa baguette lui revienne à 2 euros. Et que l'État, pour éviter une crise du logement par rapport à l'évolution des prix des céréales, lui dise « Monsieur le boulanger, vous n'avez pas le droit de vendre votre baguette à plus de 1 euro parce qu'on veut protéger le consommateur. » Si le boulanger vend 10 baguettes, il perd 10 euros. S'il en vend 100, il vend 100 euros. Et là, à ce moment-là, avant, quand le boulanger gagnait de l'argent avec ses baguettes, il avait quelqu'un qui lui faisait la tournée dans les villages et qui lui prenait une commission sur les baguettes. C'est le courtier. Et à chaque baguette qu'il vendait, il prenait une petite part d'argent pour lui vendre des baguettes. Mais puisque maintenant, avec ce fameux taux, plus le boulanger vend de baguettes, plus il en perd, il n'a aucun intérêt à rémunérer intermédiaire qui va encore plus...
C'est les banques.
Et ça permet aux clients de comprendre que le problème, ça n'est pas eux. C'est le système qui essaye de les protéger, mais c'est inavouable par rapport aux intermédiaires qui nous accompagnent dans la démarche.
Vous leur dites ça, Jean-François, vos clients ? Alors, quand ils ont un refus de prêt qui est lié à un surendettement, par exemple, ou un trop plein d'endettement, et qu'ils comprennent que l'endettement, au-delà de 33-35%, c'est un refus de prêt, quoi.
Alors, non seulement on leur dit, mais alors nous, on n'a pas beaucoup utilisé les courtiers depuis des années, parce qu'on a des compétences internes. Néanmoins, sur le marché, les courtiers, ils ont vraiment ce rôle de l'accompagnement du client, parce que leur but, c'est vraiment que le prêt aille au bout. Et donc, ils faisaient ce travail-là. Et aujourd'hui, les courtiers, effectivement, ils sont mis un peu de côté par les banques, légitimement, parce qu'elles n'ont plus les moyens de les rémunérer. Et donc, c'est à nous, professionnels d'immobilier, de passer du temps et plus de temps pour bien expliquer, pour bien accompagner.
Alors,
et pour dire non à quelqu'un avant qu'il aille voir une banque si on sait que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas la peine.
Jean-François, vous avez utilisé tout à l'heure 2 termes.
Oui.
Vous avez parlé de BRS. BRS, traduit, vous me dites, bail réel et solidaire.
C'est une manière d'acquérir la propriété.
Alors,
sans acheter le terrain. Donc ça, c'est une manière...
Est-ce que c'est un avantage pour l'accession sociale, concrètement ?
Oui, c'est un complément. On avait le système, effectivement, de vente HLM. On avait le système de location-accession, qui était déjà un vrai progrès avec 2 phases, une phase locative, une phase acquisitive. Et puis là, on a ce BRS. Le BRS, il permet à des accédants qui veulent acheter dans une zone tendue, voire très tendue, de pouvoir acheter la valeur économique du bien qui est construite sans acheter le foncier qui peut avoir un coût de 30-40% de la valeur globale. Et c'est pour ces cas-là qu'on a besoin de ce BR.
Et qui conserve le foncier alors du coup ?
C'est un organisme de foncier solidaire. Il y en a beaucoup qui se sont créés partout en France, qui fonctionnent de mieux en mieux. Il y a des projets un peu partout, sur tout le territoire.
Et ça marche.
D'ailleurs, pas uniquement dans les très grandes villes. C'est ça qui est intéressant. Il y a des micro-zones tendues également, dans plein de régions. Il y a des petits endroits où on n'arrive plus à acheter. Bah, pour ces petits endroits-là, les OFS, les organismes de foncier solidaire, pardon, achètent des terrains, les mettent à disposition des particuliers en BRS. Et nous, on va aller plus loin.
Est-ce que c'est cessible ?
Oui, exactement. Alors, c'est cessible, mais c'est compliqué. Comme toujours, en France, on aime bien mettre des mesures un peu compliquées. Donc, les personnes peuvent revendre leur BRS à des personnes qui répondent au même plafond de ressources que les leurs, quand ils ont acheté leur propre BRS. Et ils ne peuvent pas faire de plus-value dans l'absolu, en dehors de deux choses. L'inflation, donc en gros c'est l'IRL, c'est indicé sur l'IRL, et le coût des travaux qu'ils ont pu
acheter. IRL en moyenne 3%, 2-3% par an.
Ouais. Ces dernières années moins, maintenant les années qui viennent plutôt effectivement autour de 3-4%.
Donc l'inflation est ?
L'inflation est la valeur des installations qu'on met dedans, la cuisine équipée, la nouvelle salle de bain, les placards, etc.
Donc j'ai investi 30 000 euros, j'ai la possibilité d'aller jusque-là en moyenne de plus-value, d'accord.
Voilà.
Alors, c'est compliqué quand même.
Alors c'est un peu compliqué. Ouais. Donc on met en place à l'occasion de ce congrès ce qu'on appelle un pack privilège. En réalité, c'est un suivi numérique pour tous nos accédants, pour leur dire si vous voulez rentrer dans cette logique de vous projeter un jour vers une revente, parce qu'ils finiront tous par revendre, utilisez une plateforme numérique Quadral, déposez-y un certain nombre d'éléments, quand vous faites des travaux, etc., vous les déposez, c'est votre coffre-fort numérique. Le jour où vous avez envie de vendre, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, vous appelez Quadral, on s'occupe d'évaluer votre logement, de le revendre, ça ne vous coûte rien, on prendra évidemment quelque chose sur l'acquéreur.
Vous utilisez la blockchain pour ça
On n'est pas encore.
Pas encore là.
C'est une bonne idée.
Mais j'ai un accès. Ça veut dire que j'ai un accès numérique qui est quand même très sécurisé.
Oui.
Dans lequel j'ai déposé les documents qui correspondent finalement au titre de propriété.
Exactement. On met tout ce qui fonde la propriété.
Et donc,
on met
dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans,
valeur.
Je vous recontacte.
Exactement. Et nous, on a du coup toutes les données pour lui calculer son prix maximal de revente.
D'accord.
On vérifie que le prix maximal de revente est compatible avec les données du marché actuel, puisque
ça
n'est qu'un maximum. Et puis ensuite, on engage la vente.
D'accord. Donc, si je récapitule, finalement, c'est un outil qui est plutôt intelligent, on va le dire, pour les zones tendues, hein, puisqu'effectivement, pour rappeler que là où le foncier n'est pas très cher, ça n'a pas d'intérêt.
Non, non.
Là où le foncier, effectivement, est difficile, d'ailleurs, on voit bien, hein, puisque les primo-accédants dans le marché privé, si je peux dire les choses comme ça, ont pris quasiment 10 ans sur les dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, on accède de plus en plus tard à la propriété,
clairement.
Et c'est le problème des primo-accédants en France, c'est un vrai sujet, parce que le sujet de l'envolée des prix est un fait réel, et il n'a pas été accompagné de l'évolution des salaires, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre les revenus et la capacité de l'endettement. Donc le BRS, finalement, c'est intéressant. À ceux qui vous disent, Jean-François Prévost, le BRS, c'est un glissement vers l'amphythéose à l'anglo-saxonne, et ça va se généraliser un peu partout. C'est quoi ?
Je ne crois pas trop à la généralisation, parce qu'il faut quand même reconnaître que quand on explique pour la première fois le système d'un BRS, un accédant, déjà il faut un peu de temps pour qu'il comprenne tout ça. Donc maintenant on est habitué, donc on le fait, on essaie de le faire correctement. Enfin, il faut quand même bien l'expliquer, ça prend un peu de temps. Donc je ne crois pas à la généralisation. Je crois que c'est un outil qui est précisément utile pour ce pourquoi il a été conçu. Pas plus, pas moins. Donc je pense que ça restera du même niveau à terme peut-être que le PSLA. Donc quelques milliers de logements par an, et c'est formidable. Et par contre, c'est vraiment un élément qui est très favorable pour les primo-accédants avec des ressources limitées, parce que effectivement, pour le primo-accédant qui a des ressources élevées, ou pour celui qui est en train de revendre déjà un premier bien immobilier, il n'aura pas nécessairement une envie d'aller se placer sous BRS, il a envie d'être tranquille, d'avoir son terrain, de revendre sans aucune limitation de plus-value. On n'est pas sur cet atout-là. On est vraiment sur la première marche. Donc cette première marche, nous on est prêts à l'accompagner, mais cette première marche, malheureusement, on ne peut pas se dire qu'il y aura 50 000 BRS demain par an. J'y crois pas trop.
C'est très clair.
Il y aurait besoin.
Il est l'heure bientôt de conclure. Je voudrais vous laisser la conclusion. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais passer avec vous, Cédric, en revue finalement l'actualité du moment. Donc, on a rappelé les éléments de conjoncture. Vous avez rappelé les difficultés d'accès au crédit avec le taux d'usure, dont on espère qu'au 1er octobre, il sera relevé, et même un peu plus avec le temps. De toute façon, avec une inflation à 8%, il y aura forcément des relèvements du taux, clairement. Vous avez rappelé également que c'était toujours le moment d'acheter. Qu'est-ce que vous diriez en conclusion à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient particuliers ou professionnels, pour les engager sur ce processus? Parce qu'effectivement, à la fois l'accession à la propriété tout court est une bonne chose en soi, puisqu'on patrimonialise, entre guillemets, mais c'est aussi, dans le cadre de l'accession sociale, une vertu extrêmement intéressante pour la cohésion urbaine.
Mais c'est le même parcours, finalement. Je veux dire, la démonstration de Jean-François Prévost est limpide. Alors, il a parlé du BRS, mais pour les parcours plus traditionnels, le chemin est le même. Il faut se réapproprier une culture à l'accession, à la propriété en France, qui est différente de celle de nos parents. Nos parents achetaient un bien pour la vie. Aujourd'hui, c'est l'investissement d'une vie, mais cet investissement sera pluriel. Dès qu'un jeune actif est titulaire d'un CDI, il doit immédiatement acheter un deux pièces et gravir la première marche de cet escalier de l'accession pour pouvoir, au fil du temps, avoir des apports pour pouvoir loger sa famille à terme.
Je vais vous taquiner à ceux qui vous répondent, Cédric Lavaux, que finalement, ce n'est pas une mauvaise chose que les gens n'accèdent plus à la propriété aussi jeune. Parce que c'est un frein à la mobilité, vous leur répondez quoi ?
Je leur réponds que vendre n'enlève aucunement la mobilité. Je leur réponds que dans 20 ans, quand le prêt de ceux qui ont choisi d'accéder sera payé, ils pourront, lorsque leur enfant aura 20 ans, le loger en tant qu'étudiant et sans avoir à ressortir un second loyer parce que leur premier prêt sera payé. Et puis, enfin, quand ils devront assumer leur dépendance avec des sommes qui, aujourd'hui, sont à 3 000, 3 500 euros par mois pour assumer sa dépendance, ils ne le feront pas porter à leurs enfants, mais ils auront le capital d'un bien immobilier payé qu'ils pourront revendre pour assumer leur dépendance.
C'est une bonne réponse.
Il voit loin.
Hein. Ah, c'est une bonne réponse.
Ah, il est fort.
Ah, voilà, c'est là... Une réponse qui est faite à un homme politique, quand on sait ce que c'est que de prendre en charge la cinquième branche, la dépendance, on comprend complètement. Merci Cédric Lavaux.
Merci Sylvain.
Jean-François Prévost, le mot de conclusion.
Mais moi, je m'adresserai plutôt aux bailleurs sociaux, puisque voilà. C'est le public
voilà.
Qui
on
est
ici
visé
au Congrès.
Ici. Je crois que c'est l'intérêt de tout le monde, l'accession à la propriété. Tout le monde l'a bien compris. Quand j'ai commencé à participer au Congrès HLM en tant que patron de Quadral Transactions à l'époque, il y avait encore beaucoup de gens dans les allées pour nous dire que ce qu'on faisait, c'était pas bien. On vendait des logements sociaux, etc. Tout le monde maintenant a compris que c'était le meilleur moyen pour les bailleurs sociaux de reconstituer des fonds propres,
ah oui.
Comme on fait finalement à titre personnel.
C'est très important.
On récupère des fonds propres, okay. On les réinvestit.
C'est plus tabou de le dire aujourd'hui. Hein.
C'est plus tabou et
avant,
on a mis du temps.
Avant, c'était un peu tabou de dire.
On avait effectivement parfois des opposants, c'était compliqué.
Et oui. Et
aujourd'hui,
oui.
Je crois que c'est rentré vraiment dans les mœurs,
oui.
Tant mieux. Et c'est aussi l'intérêt des organismes. Puisqu'une fois qu'un logement est amorti et qu'ils le vendent, naturellement, ça produit du cash et ça produit du résultat. Dans une configuration actuelle d'augmentation des taux, y compris d'augmentation du taux du livret A, qui est la ressource de base des organismes HLM, il est intéressant de pouvoir se reposer sur des ventes en lot par lot, mais aussi des ventes en bloc. Petit instant de publicité, on fait évidemment ça en plus chez Quadral pour les bailleurs. Pour les aider aussi à sortir
d'un pas. Eh bien, ça tombe bien,
on
me pose la question, est-ce que n'importe quel organisme du logement social peut appeler Quadral pour la vente de leurs biens à leurs locataires? Est-ce que c'est possible?
Alors, non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable. Et il n'a même pas besoin d'appeler Quadral, il peut directement passer sur notre stand puisqu'on sera présent les 3 jours du congrès.
D'accord.
Et on est là pour accueillir tout le monde.
Donc quel que soit le véhicule ou la nature juridique,
oui.
De ceux qui détiennent aujourd'hui des biens, on va dire, en location sociale.
Exactement. Le critère, c'est vraiment le logement social.
On va parler des bailleurs sociaux, comme ça va être plus simple. Peuvent utiliser les services de Quadral, venir vous voir ici. On va donner le numéro du stand.
Et partout en France.
Voilà.
Et partout en France. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où on dirait oui, c'est trop rural pour nous. Okay. Non, on est partout.
Alors, le numéro du stand, on l'a. Est-ce qu'on a le numéro du stand?
C'est le D46.
Le stand est au numéro B46 si vous passez sur le plateau. On est situé juste à côté de la plénière. D'ailleurs, le plateau de notre radio est aussi avec nos partenaires de ProCivis qui sont d'ailleurs des futurs clients pour vous, bien évidemment. Et la notion de client est intéressante, Jean-François, puisqu'elle donne aussi la qualité du service, de l'accompagnement. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui est lié à l'argent, c'est aussi lié à l'accompagnement humainement. C'est extrêmement important. Bien évidemment, vous retrouvez Quadral sur les sites internet qui vont bien. On vous attend ici, on est ensemble jusqu'à jeudi pour ce 82e congrès de l'Union sociale pour l'habitat, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vont circuler. Et je vous encourage aussi, bien évidemment, sur le podcast, à y ajouter vos commentaires. Merci Jean-François Prévost.
Merci Sylvain et merci beaucoup à Cédric.
Je rappelle que vous êtes le président de Quadral. Voilà, mention spéciale pour s'être déplacé puisqu'il est venu de Lorraine. Il fait l'aller-retour, il repart dans l'heure qui suit. Cédric Lavaux, merci. Je rappelle que vous êtes le coprésident de la Chambre FNAIM de Moselle et le président du fichier AMEPI.
Merci à tous les deux.
Merci à tous. Vous retrouvez donc sur le podcast, comme d'habitude, sur les plateformes d'écoute. Likez, partagez, sans aucune modération. A tout à l'heure.
Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon, en partenariat avec Quadral sur Radio Immo et Radio Territoria.